Ah mais je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît?
J'arrive meuf, je descends. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. C'était un peu le rush ces derniers temps, car je m'approche un peu de la fin d'année avant de commencer mon stage d'études, du coup, en troisième année de direction artistique. Donc, c'était un peu le rush, mais je suis en train de rendre un peu tous mes projets finaux et j'en suis très fière. Donc, c'est cool. Mais aujourd'hui, on va parler du coup de mon vrai projet, enfin mon vrai projet... Le projet qui a un peu dicté ma vie cette dernière année, qui est la partie clic-clac. Donc si tu écoutes ça, ça se trouve que tu écoutes par intrigue de comment lancer ton propre podcast. Ça se trouve que bah, tu écoutes la partie clac régulièrement et du coup ça va pouvoir t'apporter un peu le backstage de comment la partie clac est venue ici. Je sais pas à quel moment tu as commencé à m'écouter, mais ça peut t'apporter un peu de behind the scenes de comment mon podcast en est arrivé à là, jusqu'à tes oreilles. Parce que si on reprend depuis le début, à la base j'étais juste étudiante en Erasmus, un peu en train de me faire chier, à maintenant de retour en France, toujours étudiante, mais cette fois-ci avec mon podcast comme métier à part entière, d'en dégager un revenu et que ça m'ait ouvert des portes dont je n'aurais jamais imaginé. Donc cet épisode va autant être un peu une piqûre de rappel pour moi, pour me rappeler du chemin que j'ai parcouru, parce que c'est trop facile d'être à fond en train de se projeter vers le futur ou de stresser vis-à-vis de l'instant présent, que des fois je regarde pas en arrière et de me dire bah qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que j'en suis arrivée là. Et je pense pour une fois j'ai ce sentiment de légitimité de donner des conseils vis-à-vis du podcast en règle générale, parce que s'il y a un sujet que je peux parler des heures, c'est bien du podcast et des erreurs que j'ai pu faire avant que j'aurais peut-être voulu éviter, donc si ça peut être les éviter. Dans ces épisodes je vais aborder du coup le début, pourquoi la partie claque, comment est-ce que j'ai lancé concrètement le podcast, comment est-ce que j'ai eu les idées, ne serait-ce que la miniature, des choses comme ça. Ensuite je vais aborder des questions techniques, que ça soit le micro, le montage, ça se trouve que t'es intrigué tout simplement de comment lancer un podcast tout court, parce que c'est vrai que c'est pas comme un TikTok ou un YouTube où c'est peut-être un peu plus transparent, là c'est vrai que c'est un tout petit peu plus technique sur pas mal de points. Ensuite je vais parler de l'aspect de se faire connaître, comment est-ce que mon podcast est devenu connu, comment est-ce que le tien peut devenir connu, puis une question sur les thunes, comment est-ce que j'ai pu, enfin comment est-ce que c'est devenu rentable, comment est-ce que je génère de l'argent tout simplement grâce au podcast, et ensuite un peu une projection à l'avenir de what now, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui nous attend pour la suite, et toi en tant qu'auditeur ou auditrice du podcast. Donc sans plus tarder, je vais directement rentrer dans le début du podcast. Et faut savoir, si jamais tu ne le sais pas, l'appart clic-clac, c'était tout simplement le nom de mon premier appartement étudiant. À 18 ans, en 2020, j'ai emménagé à Lyon et mon appartement c'était tout rikiki. Et c'était l'appartement numéro 808 à Lyon, au 8e étage, avec un ascenseur totalement dégueulasse pour monter vers cet appartement. Et sans le savoir, ce petit 20 mètres carrés allait sincèrement devenir l'endroit où j'étais le plus heureuse de ma vie. Et jusqu'à ce jour, c'est encore le cas. Je n'ai aucune exagération quand je dis ça. Et même quand je parle à mes amis, c'est vraiment le lieu qui a regroupé tous les meilleurs souvenirs. Je pense qu'on a un peu tous un lieu qui est comme ça. Et on l'appelait l'appartement clic-clac parce que j'avais un clic-clac au début. C'était mon lit que je pouvais replier en canapé si je voulais plus de place, vu que c'était un tout petit appart. Et donc j'ai acheté un deuxième canapé clic-clac à 20€ sur le Bon Coin. Parce qu'au moment du Covid, où il y avait le couvre-feu, bah en fait, on se voyait moins avec mes amis. Et moi, ça me saoulait parce que moi, je voulais qu'on ait un endroit où je puisse faire dormir tout le monde, où les gens n'étaient pas obligés de partir avant le couvre-feu, etc. Donc j'ai installé ces deux clic-clac, et tu peux imaginer dans un 20 mètres carrés, en fait ça prend toute la place. Donc en fait ça a forcé à la proximité, et en fait pendant un an et demi, du coup c'était au milieu de la première année que j'ai fait ça, pendant un an et demi de ma fin de première année à ma deuxième année de DUT à Lyon, ça a été un squat. C'est-à-dire que je ne connais pas le nombre de personnes qui ont mis pied dans cet appartement, mais c'était totalement fou et... La partie clac, c'était la partie clac avant d'être un podcast. Pour moi, c'est bien plus que ça. Donc voilà, petite historique derrière le nom. Comment est-ce que la partie clac est passée d'un simple appartement de 20 mètres carrés au 8e étage à devenir un podcast avec, je crois, presque 800 000 auditeurs. Maintenant, je t'avoue, je ne regarde plus trop les statistiques, mais il me semble que la dernière fois que j'avais regardé, notamment 750 000, ce que je trouve totalement fou pour un 20 mètres carrés. Je pense que là, on tient pas tous. En fait, ce qui s'est passé, comme j'ai mentionné au début, c'est que je suis partie en Erasmus. C'est-à-dire que donc j'ai rendu les clés de mon appartement clic-clac d'amour et j'ai pleuré. Mais j'ai vraiment fait le deuil d'un lieu qui était répugnant, mais qui en fait, pour moi, était synonyme de liberté, d'un d'indépendance. Je savais qu'en fait, tous mes amis que j'ai rencontrés dans cet appartement, on allait tous prendre le chemin différent. Et moi, c'était vraiment un moment hyper important de ma vie parce que c'était la première fois où j'ai pu libérer plein de sujets avec mes potes. C'était un endroit. En fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas ont le même sentiment, c'est qu'on s'est libéré sur plein de choses, que ça soit au niveau de la sexualité, au niveau des mecs, au niveau de la confiance en soi, au niveau du fait qu'on est perdu dans notre vie. En fait, on était tous ensemble dans la même merde, sur les vieux clic-clac tout démontés à parler de ça après les cours à 16h, le matin avant de partir en cours, en rentrant de soirée, avant d'aller en soirée. Et en fait, c'est à ce moment-là, je pense que c'est pour ça que j'avais une attache si sentimentale, parce que cet appartement m'a vu et nous a vu grandir en tant que groupe d'amis, de passer de jeunes ados, enfin de fin d'ados, à vraiment du coup notre vingtaine, à commencer à être un peu plus émancipée. Et du coup, l'appart a connu des peines de cœur, des mecs, des copines qui chialent, des fous rires, des gueules de bois. Enfin, en fait, l'appart a vu tellement de choses que lorsque je suis partie en Erasmus, en septembre de l'année où j'ai lâché mon appartement, je me suis sentie très seule. J'ai fait tout un podcast sur l'Erasmus qui date de juin sur l'importance de quitter là où tu as grandi. Il me semble qu'il s'appelle comme ça. Je vais pas rentrer dans le détail de mon Erasmus, mais en fait, pendant cette période, au-delà du fait que je me sentais très seule, je me faisais très chier parce que je participais pas activement en cours, j'y allais pas. J'étais totalement perdue sans ce lieu, sans mes amis. Et donc, pendant cette période, j'ai commencé à beaucoup écouter de podcasts, notamment Trying Not to Care by Ashley Corbo, une américaine, Emma Chamberlain. Pour remettre un peu en contexte, lorsque j'ai lancé le podcast, Léna Situation n'avait pas son podcast. C'était pas du tout le même environnement de podcast qu'on connaît à l'heure actuelle avec l'effervescence des podcasts un peu de partout. Enfin, quand j'ai lancé le podcast, c'était un peu inconnu au bataillon, quoi. La moitié de mes copines ne savaient pas ce que c'était qu'un podcast. Alors que maintenant, au-delà du fait que j'en fais, c'est quelque chose qui est beaucoup plus connu et je pense que les consommateurs, c'est beaucoup plus commun d'écouter des podcasts. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai voulu écouter un podcast en français. Et je me suis dit, tu sais, à force d'en écouter, au bout d'un moment, tu fais un peu le tour des épisodes et je voulais un peu découvrir ça. Sauf que j'ai pas trouvé de podcast francophone qui n'était pas moralisateur. Et je ne critique en aucun cas les podcasts qui existaient à ce moment-là ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai pas trouvé de podcast dans lequel je m'identifiais autant que dans les podcasts anglais dans lesquels je m'identifiais. Je trouvais ça dommage ou du moins les personnes... Mais je me suis dit, Amélia, au lieu de critiquer et de dire que tu trouves pas de podcast français, pourquoi pas faire le tien ? Et je me souviens de l'instant précis où je me suis fait cette réflexion. C'est, j'étais dans un tram, j'écoutais un podcast et j'ai eu l'idée. Et en fait, quand je te dis que j'ai eu cette idée et que l'idée ne m'a pas lâchée depuis, j'en suis à là. En fait, l'idée ne m'est pas sortie du crâne. Mais du coup, la question qui se posait, c'était comment tu crées un podcast ? Enfin, comment tu fais, en fait ? Enfin, c'est vraiment une énorme interrogation parce qu'il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un message dans mes DM. Amélia, comment tu fais ça ? Comment tu as de l'inspi ? Quel micro tu as ? Donc, ça se trouve que tu écoutes ce podcast car je t'ai renvoyé vers ici suite à un message en DM. Comme ça, t'as vraiment l'intégralité des réponses ici. Mais c'est vrai que c'est un flou et je suis également passée par là. Et c'est hyper compliqué parce que maintenant, il y a énormément plus de documentation. Genre en un an, c'est une dinguerie. Là, je suis allée sur YouTube pour regarder quel tuto était apparu depuis. Ou même des fois, quand je me pose des questions que je vais dessus, la quantité de ressources a vraiment, quand je te dis, genre multiplié par 10... C'est pas une blague, donc ça c'est vraiment trop chouette maintenant pour se lancer. Mais du coup, avant de regarder du côté technique, j'ai vraiment commencé à me poser sur qu'est-ce que j'allais raconter, comment j'allais raconter. Je suis rentrée chez moi, en 3 minutes au chrono, je crois que j'avais déjà vidé bien 10-20 idées quoi. Naturellement, le nom La Partie Claque est arrivé tout de suite parce qu'en fait, le nom La Partie Claque était quelque chose avant d'être un podcast. Il me semble que j'avais réfléchi à quelques autres petits noms, mais... Je m'en souviens même plus de ce que c'était, parce que en fait, la partie claque, dès que j'ai eu l'idée, c'est resté. Ensuite, il y avait toute cette idée de visuel. Donc, comment est-ce que tu vas créer une direction artistique autour de ton podcast ou du coup autour de la partie claque ? Et en fait, c'était assez simple, un peu encore une fois, parce qu'il y avait toute l'idée de la boule à facettes, des appareils photo. En fait, j'avais déjà un univers parce que j'avais déjà mon compte Instagram, Film by Mimo. Bon, il y avait vraiment genre, 200 personnes abonnées à ce compte et la moitié, c'était juste mes potes et des gens que je connaissais parce que je fais de la photo argentique. Mais en fait, j'avais déjà un univers à moi. En fait, c'était assez cool parce qu'en fait, ma DA, en fait, en a découlé de moi-même. J'ai donc créé le visuel qu'il y a actuellement sur le podcast, qui va bientôt changer d'ailleurs. je ne dis pas la pourquoi du comment, mais voilà, la partie claque va bientôt un peu grandir. Il est peut-être temps, mais c'est pour ça que c'est important de faire un petit point avant de changer quelque chose à l'appart. Il est temps de faire un petit relooking, je pense. Parce que personnellement, le visuel de la partie claque, il me donne envie de gerber. Je ne peux pas me le voir, j'ai l'impression que ça me passe à un hôpital. Je sais pas pourquoi. Donc à ce moment-là, j'avais un cahier de brouillon quoi, qui brûlait d'idées. Il y avait autant un peu le visuel qui avait les idées, j'avais le titre, j'avais un peu les axes que je voulais aborder. Et constamment, en fait, cette note n'a pas été épuisée depuis d'idées de thèmes d'épisodes. En fait, je faisais que de bouillonner d'idées de thèmes qui faisaient que de ressortir. Où je me suis dit, ah ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment prendre la chose au sérieux, donc vraiment une semaine après, et je me suis dit « Ok, il faut que je mette en place un rétro-planning, comment est-ce que ça va fonctionner ?» Et j'ai mis en place un rétro-planning marquant la date de début de mon podcast, qui a malheureusement été décalée du simple fait que le jour où je suis acheté mon micro, très ironiquement, c'est le jour où je suis tombée malade. J'ai pas envie de le répéter dans tous les épisodes de podcast, mais j'ai eu une paralysie faciale, c'est-à-dire qui est... Je me permets d'en rigoler, mais j'arrivais pas à dire le mot « podcast », je disais « podcast ». Parce que bah, j'avais la moitié du visage qui bougeait pas. Donc j'ai passé mes premiers jours à l'hôpital avec mon micro, avec moi, parce que j'avais pas eu le temps de le ramener à la maison. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai quand même pris le temps de faire une veille un peu concurrentielle pendant que je faisais mon rétro-planning. Et je t'invite vraiment à le faire si tu fais un podcast, parce que du point de vue de quelqu'un qui a déjà un podcast, je t'avoue que c'est assez frustrant de voir des podcasts qui se créent, qui ont soit les mêmes directions artistiques que toi, ou qui ont vraiment plein de choses qui se ressemblent. Et je pense que c'est pas forcément un manque cruel de créativité, mais c'est un manque d'attention sur ce qui se fait à l'extérieur. Et ça va autant quand tu crées une marque. Tu as quand même t'intéresser à ce qui se fait ailleurs pour créer quelque chose qui te ressemble vraiment. Et c'est assez simple de se calquer sur ce qui existe déjà. Mais quand j'ai créé mon visuel, j'ai pris le temps de regarder. Et en fait, avant de lancer mon podcast, Léna Situation a lancé le sien, No Joke, une semaine avant, il me semble. Parce que le mien, du coup, a été décalé. Mais elle a utilisé l'emoji clic-clac, enfin un canapé. Et du coup, je l'ai supprimé de ma direction artistique parce que tout simplement, je ne voulais pas que les personnes... nous identifie ensemble, enfin bon, non pas qu'on allait m'identifier avec, mais je voulais que mon podcast soit vraiment un truc à part entière. C'est pour ça que la boule à facettes, j'ai essayé d'un peu tout de suite l'adopter, non pas qu'elle m'appartient, mais voilà, tu captes l'idée, c'est de l'importance de faire un peu une veille, un peu de ce qui existe déjà pour, je sais pas, t'encourager à différencier. Franchement, je trouve ça trop chouette. Mais il y a quand même la question qui est beaucoup revenue dans ma story Insta vis-à-vis de ce que vous voulez savoir sur le podcast, de comment est-ce que tu fais pour te lancer, etc. L'avantage du podcast, c'est que c'est en anonyme. Et ça, je trouve ça très chouette. Enfin, c'est pas anonyme, mais tu peux faire ça en anonyme. Les gens de ton collège, lycée ne sont pas obligés, ou de tes études, ne sont pas obligés de savoir que c'est toi. Tu peux prendre un pseudo. Je trouve ça hyper chouette. T'es pas obligé de te montrer face cam. Et même dans la communication que tu fais, t'es pas obligé que tu sois mentionné dedans. Donc ça, je trouve ça très chouette. Mais tout de même, c'est quand même pratique de se donner une identité pour créer un lien de proximité, étant donné que tu parles de ta vie. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était le fait d'être à l'étranger. Donc j'ai pris énormément de recul avec la France et les gens qui m'entourent. Donc j'avais moins cette pression de savoir que les gens qui allaient m'écouter allaient me voir dans la vraie vie. Je t'avoue, c'est pas quelque chose qui m'a trop tracassée, parce que j'avais tellement envie et j'avais cette flamme en moi qui me disait que genre c'était fait pour moi. En fait, je sais pas comment expliquer, c'était un truc, en mode j'ai eu l'idée ne m'a pas lâchée depuis, et c'est la première fois de ma vie. Je suis genre de personne où dès que j'ai un loisir, j'arrive pas à le terminer, comme mes phrases là, j'arrive pas à les terminer, je pars dans tous les sens. Dès que j'ai un loisir, j'ai besoin de le faire, j'ai besoin d'apprendre à tricoter et d'apprendre à coudre et à faire des gâteaux en même temps. Mais là, pour la première fois, le podcast, c'était quelque chose où je me suis investie dedans et naturellement c'est resté. Donc maintenant que tu as peut-être passé le cap ou tu as l'idée de faire ton podcast, je t'invite à l'écrire un peu en amont, notamment au début. Soit tu peux le faire en one shot également, mais moi du moins je l'écris, mon épisode, en amont. Je n'écris pas les phrases en entier, mais il y a quand même des gros bullet points de ce que je veux dire. Tout simplement, c'est pas forcément pour l'auditeur, parce que malgré le fait que ça soit plus agréable de savoir où est-ce que le train de pensée de la personne va t'amener, c'est quand même pour toi d'avoir une forme de structure pour pas perdre trop de temps dans ce que tu dis, de pas être frustré dans ta manière de parler, de savoir où est-ce que tu vas, parce que c'est trop facile de divaguer, notamment quand tu fais des podcasts en solo. de partir dans tous les sens parce que bah quand au moins quand on échange à deux ça tu peux te ramener un peu sur le sujet, c'est vrai que seul c'est facile de divaguer. Du coup je vais faire un mini point technique sur donc au moment où j'avais ok mes idées de thème, mes épisodes, mon visuel, etc. Comment est-ce que je suis arrivée à l'aspect technique, comment est-ce qu'un podcast passe du moment où j'ai une idée dans ma tête, j'ai écrit mon trame, est-ce que ça arrive dans tes oreilles, est-ce que là tu peux pouvoir m'écouter avec une qualité bien montée sur les plateformes de streaming, bien diffusée. Donc si je reprends, donc tu as écrit ton épisode de podcast, tu as ton idée, il faut d'abord que tu l'enregistres. Il y a mais une centaine de manières de fonctionner, donc je te partage seulement la mienne. Personnellement, j'ai le micro Yeti Blue, je mettrai le nom et peut-être un lien en description. Je l'ai acheté en Allemagne, mais je sais qu'il coûte aux alentours de 100 €. Je l'adore, il est juste pas facile à transporter. Pour l'avoir trimballé dans certains pays pendant mes voyages pour sortir les épisodes à l'heure, c'est tout sauf pratique à transporter, donc c'est casse-couille. Mais il me permet d'autant faire des épisodes toute seule qu'à deux, parce que c'est une autre question que j'ai reçue. Lorsque je suis à deux sur un épisode de podcast, mon micro peut être multidirectionnel comme unidirectionnel, c'est-à-dire que là il est réglé de façon à capter seulement le son qui sort face au micro et pas le bruit aux alentours. Par contre, quand j'ai fait l'épisode avec Tess par exemple, on a mis le mode multidirectionnel, c'est-à-dire que ça captait venant de deux sens du micro. Je suis en train de faire des signes avec mes mains comme si je guidais pour sortir d'un avion, c'est trop bizarre. Yeti Blue, je recommande, c'est vraiment le micro de base que j'ai trouvé quand j'ai recherché de quoi faire mon podcast. Mais en tout cas, c'est mon Bebs, je l'adore. J'aimerais bien trouver un truc un peu plus portatif pour faire des vidéos où je parle face cam, mais bon, ça c'est pour plus tard, j'ai pas envie d'investir des thunes là-dedans. J'enregistre sur mon MacBook, mais ça c'est seulement récent, avant j'avais un Acer et ça marchait très bien. Et c'est avec le logiciel Audacity. Pareil, je mettrai le lien en bas. Je ne vais pas faire des tutos sur comment monter dessus parce que je t'avoue que ça devient très intuitif. Après, il faut vraiment pas avoir la science infuse pour monter dessus. Tuto YouTube, je crois qu'il y a un tuto YouTube qui dure genre 40 minutes, basique. L'interface, on dirait qu'on est encore sur Microsoft 0.1, vraiment on dirait un truc hyper vieillot. Par contre, ça marche hyper bien. Je sais que Tess de Safe Place, elle fait sur GarageBand avec un autre micro et les micros T-Bone qui sont pas mal. Donc ce qui se passe, c'est que là, bah, tu enregistres, donc tu parles face à ton micro. Là, par exemple, j'en suis à ma 30e coupure, j'ai mis pause pour reprendre mon train de pensée, reprendre ma respiration, etc. Une fois que mon épisode est enregistré, c'est à ce moment-là qu'on va passer au montage. Au début, je faisais toujours une double copie pour garder un peu le truc d'origine si jamais je voulais revenir dessus. Maintenant je le fais beaucoup moins parce que je sais pas, je me fais un peu plus confiance au montage. Et au montage, au début, je ne peux pas me réécouter mes anciens épisodes de podcast parce que je coupais trop ma respiration et ça me rendait folle, enfin ça me rend folle maintenant parce que j'étais tellement perfectionniste dessus. Je t'invite à quand même laisser quelques respirations, ça fait beaucoup plus naturel et agréable à l'écoute que ce soit quelque chose de très très cadencé. Mais niveau montage, tuto YouTube, vraiment genre 40 minutes et tu prends le coup de main facilement. Et je suis pas quelqu'un qui apprend hyper rapidement non plus. Enfin, genre je pense que je peux prendre le coup de main, mais je suis pas non plus, tu vois, il y a des gens qui apprennent en 3 secondes, c'est pas forcément mon cas. Donc arriver au montage d'un podcast, ça fait déjà un bon moment que j'y ai mis du temps dans l'épisode, que ce soit dans la réflexion, dans l'enregistrement, dans le montage. Je pense qu'on est déjà à quand même 3-4 heures de travail sur mon épisode de podcast. L'épisode qui m'a pris le plus de temps, c'est l'épisode sur le premier date que j'avais fait en deux parties. J'ai dû faire 10 heures de montage sur les 4 heures d'enregistrement. Au final, j'ai rencontré mon mec grâce à ça, donc stylé, mais putain que c'était long à monter. Une fois l'épisode de podcast monté, je l'exporte en MP4 et c'est à ce moment-là que tu te poses la question de comment est-ce que ça passe de MP4 sur mon ordinateur à pouvoir être sur une panoplie de plateformes de streaming. Et c'est à ce moment-là qu'on a ce qu'on appelle un hébergeur. Un hébergeur, c'est là où ça va être un peu la maison de ton podcast, où tu vas pouvoir modifier le visuel, les descriptions, etc. Et il y en a plein. Il y a Megaphone, Spotify for Podcasters, Oshawa, j'en oublie tout plein. Mais perso, je suis chez Acast. Formule gratuite, franchement, au top. J'ai rien à dire, ça me passe bien. Et encore une fois, c'est très simple. C'est un peu chiant au début et je me souviens même plus exactement comment j'ai fait parce que du coup, je reçois souvent des questions de comment tu fais ça aussi. Et ça a beaucoup changé depuis. Et c'est pas du tout les mêmes méthodes, mais je sais que du coup lorsque je poste un épisode ça va mettre à peu près une quinzaine de minutes voire jusqu'à une heure, ça dépend de si c'est chiant, pour arriver sur toutes les plateformes de streaming. Spotify c'est toujours plus rapide, Deezer toujours plus lent, qui casse les couilles. Mais même si tu veux modifier un truc, tu peux toujours modifier les descriptions, mais ça prend du temps à modifier le temps que ça aille sur les différentes plateformes de streaming. Donc moi quand je mets publier sur Acast, ça part sur toutes les plateformes de streaming, plus YouTube. Avant de faire cet épisode, je me suis renseignée au niveau YouTube parce que moi j'ai envie de changer pour libérer ma chaîne YouTube pour un autre projet qui arrive et faire une chaîne YouTube la part Triclac. Toutefois, je ne peux pas changer le lien YouTube vers lequel renvoie mon podcast qui est diffusé un peu automatiquement sur YouTube parce que Acast n'a plus le partenariat avec YouTube. Donc si je le modifie, en fait, je romps ce lien et je ne peux tout simplement plus diffuser mes épisodes sur YouTube, donc je ne sais pas comment je vais faire. Donc je suis désolée, si tu viens seulement t'inscrire sur Acast, tu ne peux pas diffuser directement sur YouTube. Toutefois, je les ai contactés, ils m'ont dit qu'ils sont en train de travailler dessus, avec pour espoir de pouvoir rediffuser les podcasts sur YouTube. Voilà, donc si jamais ça existe une question pour toi. Mais il y a aussi du coup la question de comment est-ce que je génère un revenu grâce au podcast. Donc sur Acast et même sur les autres plateformes d'hébergeurs, tu as l'option de mettre des pubs en début, en fin, comme sur YouTube, quoi, activer des pubs pour gagner des sous. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si du coup tu entends, du coup quand tu lances le podcast, ça part directement sur mon podcast et pas sur la pub d'une Renault Espace. Voilà, c'est pas mon deal, j'ai pas trop envie. Par contre, tu peux le faire et tu peux générer un revenu directement sur les plateformes d'hébergeurs. Toutefois, moi je préfère privilégier partenariat et ça depuis le début. J'ai jamais mis les revenus directement sur Acast. Enfin si, je suis une mytho au début, si, mais je me suis rendu compte que en fait il y avait la pub de Renault Espace qui passait au début du podcast et je ne peux pas, genre les pubs c'est quelque chose qui m'insupporte moi dans un premier temps. Mais donc mon premier partenariat que j'ai fait sur le podcast rémunéré, c'était Inge, qui était assez récemment, et c'est trop cool, c'est eux qui m'ont démarché. Auparavant, moi-même j'avais démarché des marques que j'adore, pour faire des partenariats sur le podcast qui n'avaient jamais fonctionné, ce qui est assez évident parce que c'est pas les marques directes, souvent ils travaillent avec des agences d'influenceurs qui vont venir contacter les podcasteurs, donc c'est pas quelque chose qui fonctionne malheureusement. Avec un peu coup de chance ou peut-être avec des choses un peu plus locales vers chez toi, ça peut carrément marcher. Du moins moi j'avais un peu abandonné l'idée, j'ai quand même tenté. Les pubs fonctionnent en pre, post et mid-roll. C'est des pubs du coup soit en début, milieu ou fin de podcast. Et du coup, ça se vend en fonction du coup de la durée qu'ils veulent. Si jamais ils veulent que j'écris le script moi-même, si jamais c'est un script imposé, tout le thème du podcast doit être autour de la personne en particulier ou de la marque en particulier. Mais du coup, il faut savoir que je ne génère pas assez de quoi vivre seulement de ça. J'ai quand même mes parents qui payent mon loyer, par exemple, vu que je suis encore étudiante en parallèle. Enfin, je ne fais pas assez d'épisodes, assez de choses pour en générer un revenu constant de la partie claque. Par contre, ça m'a quand même permis de ne pas avoir un job étudiant en parallèle de mes études et du coup de générer quand même un petit revenu avec. Mais il faut savoir que du coup, lorsque je fais un partenariat, la marque paye genre 3-4 mois après. Souvent, c'est long et c'est chiant, genre. Et du coup, après, ensuite, du coup, je suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, de ces thunes sont déduites les cotisations sociales et pas les impôts car je suis pas imposable. Mais du coup, au bout d'un moment, tu peux être imposable en fonction du revenu annuel que tu gagnes. Ça me saoule, l'épisode est beaucoup trop long. Je voulais qu'il soit beaucoup plus court que ça, mais j'ai vraiment pas mal de choses à dire. Donc, j'ai pas envie de décourter parce que sinon, je vais juste moi-même me couper la parole. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment tout pour ce qui est thunes, aspects techniques, etc. Si jamais tu veux t'arrêter à là, tu as vraiment déjà beaucoup d'infos. Maintenant, je vais parler du truc de pour se faire des thunes, faut que ton podcast soit un minimum connu. Donc, je vais parler du coup du côté de se faire connaître sur le podcast. Je t'avoue, c'est un peu un sujet sensible parce que je sais pas comment dire, j'ai l'impression de faire la vieille quand je dis ça. Mais lorsque j'ai lancé le podcast, au début, c'était pas du tout à but de me faire connaître. Et ça n'a jamais trop été le but non plus. Enfin, c'était hyper cool et pendant longtemps, je me suis vite coincé dans les stats parce que tu vois l'ampleur que ça prend et c'est chouette. Mais en fait, comme je l'ai dit au début, j'ai toujours eu cette flamme en moi vis-à-vis du podcast. Donc la quête au succès, c'est venu avec un enthousiasme et de la passion vis-à-vis du projet. Donc en fait, moi, mon meilleur conseil pour faire fonctionner un podcast ou un projet quel qu'il soit, c'est d'y mettre ton tout et de t'affranchir des codes en fait que les réseaux sociaux proposent. La quête au succès ne doit pas être une raison pour laquelle tu produis le podcast. C'est de vraiment faire les choses parce que tu as quelque chose à dire. Le podcast, c'est avant tout un échange oral, avant d'avoir des statistiques. C'est vraiment quelque chose que quelqu'un va prendre le temps et je prends en considération chaque personne et chaque oreille qui m'écoute là à l'instant T. J'ai pas envie de raconter de la merde. J'ai pas envie de raconter ce que les gens veulent entendre. J'ai envie de raconter ce que j'ai à dire et ce que j'ai à proposer à ce monde. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup de personnes à lancer leur projet. Parce que quand bien même tu parles du même sujet que moi dans un podcast, l'avantage de ça, c'est que tu auras toujours quelque chose de différent à dire tout simplement parce que tu es une autre personne et tu as un autre vécu, un autre recul. Maintenant, je vais juste faire un point de projection à l'avenir de la partie claque, de ce que je prévois que ça en devienne, etc. Si jamais tu as eu assez d'informations sur le lancement d'un podcast pour toi, n'hésite pas à partir dès maintenant. La suite, c'est vraiment purement par rapport à la partie claque en tant que podcast lui-même. Il y avait beaucoup de questions vis-à-vis de la motivation, du rythme constant, de l'emploi du temps, etc. Parce que je ne cesse de le répéter, mais je reste étudiante à côté. C'est quelque chose qui a été assez dur ces derniers temps, parce qu'en fait, pour donner un ordre d'exemple, il est 1h du matin, j'ai cours à 8h demain matin, et j'ai pas sorti l'épisode de podcast à jour, car j'avais un rendu très important et je ne voulais pas le bâcler. Donc c'est quand même un emploi du temps très soutenu et dur à tenir. La régularité avec un épisode hebdomadaire et non bi-hebdomadaire, c'est quelque chose que j'ai tenu pendant très très longtemps au début du podcast, tout simplement parce que je n'étais pas étudiante. Donc à ma rentrée en septembre, c'est quelque chose que ma perfectionniste a dû un peu lâcher prise dessus, parce que ça venait au coup de ma santé mentale, parce que c'est vrai que les statistiques n'étaient pas aussi croissantes qu'elles étaient auparavant. Mais c'est vrai que lorsque tu rajoutes un emploi du temps scolaire dans un emploi du temps qui était déjà conséquent d'une production de podcast limite à plein temps, tout ça pour dire que normalement, si on croise encore des doigts, mon podcast sera effectué, enfin mon stage là va être effectué pour moi-même, ce qui va me permettre de replonger dans le podcast et repartir dedans et vraiment relancer des projets comme j'ai pu faire avec le poster, enfin des choses comme ça. Voilà, je suis juste trop reconnaissante de ce que la partie claque m'a apporté cette dernière année, et j'espère que si toi tu vas lancer ton podcast, que tu vas également pouvoir créer un univers comme ça, parce que c'est le plus beau des cadeaux, peu importe où la suite de la partie claque va me mener. Je te fais plein de gros bisous. Si jamais tu as écouté le podcast jusqu'à là, commente. Qu'est-ce que tu peux commenter sous un réel? Ok, je veux que tu puisses inonder mes commentaires d'étoiles. Je veux tout plein d'étoiles filantes et des étoiles dans les commentaires pour savoir que tu as écouté jusqu'à la fin. Lots of love, plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao!